Bien, je suis très heureux ce matin de pouvoir partager avec vous ce culte de Pâques. Et j'ai donné comme titre à ce message de ce matin, Ils n'avaient pas compris le message. J'espère que ce matin vous allez le comprendre, je vais essayer d'être le plus clair possible pour que vous compreniez ce message. Mais les personnes de qui je vais vous parler, elles n'avaient pas compris le message que Jésus leur avait laissé. Comme nous l'avons entendu ce matin, Jésus est mort et ressuscité. Un événement hors du commun pour l'époque et même pour aujourd'hui. C'est presque incompréhensible. Et comment croire quelque chose d'aussi étrange? Quelqu'un qui est mort et qui revient à la vie. Bien sûr, maintenant, nous avons des techniques médicales qui nous permettent de faire des miracles à ce niveau-là, mais on est tous censés mourir un jour. Eh bien, cet événement, frères et sœurs, si vous ne le saviez pas, s'est produit il y a plus de 2000 ans déjà. Événement dont Jésus avait averti ses disciples et ses proches, spécialement ses disciples qui étaient dans son intimité. Ils n'ont pas été pris par surprise par Jésus au vu de ce que nous allons nous remémorer pendant ce culte. Pourtant, il semblerait que ces personnages aient perdu la mémoire. Personne n'a été attentif vraiment au message que Jésus avait délivré, même des personnes qui étaient fort proches de lui. À part les disciples, il y avait aussi des femmes et d'autres personnes qui le suivaient, qui étaient fort zélées, et il semblerait qu'elles n'ont pas capté le message que Jésus leur avait annoncé. Matthieu, chapitre 16, versets 21 à 23. Matthieu 16, 21 à 23. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, d'être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre, disant « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Jésus, nous voyons, parle ouvertement à ses disciples de ses souffrances. Il les prévient, ne leur cachant rien, il devait souffrir d'une façon terrible et mourir d'une manière atroce, mais le troisième jour, il ressuscitera. Il les avait prévenus. Il est venu pour accomplir une mission, celle de restaurer une relation entre Dieu et les hommes. Relation parfaite qui a été brisée, bien entendu, lors de la chute. Leur apportant le salut, il ne fallait pas s'inquiéter. Il y aurait un avant et un après. Et là, Pierre s'indigne, ainsi que les autres. Ce message ne passe pas. Ils n'ont rien compris. S'il le faut, il interviendrait pour défendre Jésus face à ses adversaires. Mais Jésus le reprend sévèrement. Il reprend sévèrement Pierre, le traitant de Satan, car Pierre était en train de court-circuiter quelque part le plan de Dieu, parce que Dieu a envoyé son Fils pour qu'il naisse, qu'il devienne un simple homme, mais qu'il fasse cette démarche terrible de mourir pour nos péchés, mourir sur la croix. Et le message est vraiment incompris de la part de ses disciples et de son entourage. Et je vais survoler assez rapidement les derniers instants de Jésus, parce que sinon ça nous prendrait beaucoup de temps, et je voudrais encore prendre un autre verset. Dans Matthieu chapitre 26, nous allons aller assez rapidement, nous allons aller jusqu'à la mort et la résurrection de Jésus sur quelques versets, parce qu'on pourrait passer toute la journée. Le premier jour de la semaine, verset 17, premier jour des pains sans levain, pardon, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz, le maître dit « Mon heure est proche, je célébrerai la Pâque chez toi avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Nous sommes à quelques heures de l'arrestation de Jésus. Et il dit « Mon heure est proche ». Et je pense que c'est clair. On ne peut pas être plus clair. Mon heure est proche de quoi ? L'heure est proche de partir, de vous quitter, de souffrir, de mourir sur cette croix afin d'apporter la délivrance au peuple. Ce message est clair. Et là encore, les disciples ne se sentent pas du tout interpellés. Il n'y a aucun qui réagit. Bon, l'heure est proche. Proche de quoi, Jésus ? Non. Le message passe comme ça au-dessus de leur tête sans qu'ils puissent être interpellés. Pourtant, ce message et ce signal est fort de la part de Jésus. Il leur dit, bon, l'heure est proche. Au verset 21 de ce même chapitre, il dit, pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. Et ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur ? Il répondit, celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est celui qui me trahira. Le Fils de l'homme s'en va, conformément à ce qui est écrit à son sujet. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Judas, qui le trahissait, prit la parole, dit, « Est-ce moi, maître ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Nous voyons Jésus parler de trahison. Nous voyons Jésus parler de sa mort. Nous voyons Jésus qui a l'air grave, qui prononce des paroles terribles. Ils sont inquiets, ils se demandent quoi, mais ils ne vont pas plus loin en interpellant Jésus. Ils ne comprennent pas vraiment ce qui va se passer. Mais où sont leurs pensées ? Ils ne comprennent pas que leur maître leur dit adieu. « Je vais être arrêté, mis à mort. » Et ce moment solennel n'a aucun effet, semble-t-il, sur ses disciples. Et Jésus continue, c'est le verset que nous connaissons parfaitement parce que nous les reprenons pratiquement tous les dimanches. Il continue en disant, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » C'était clair. Il n'y a rien de plus clair. « Je ne boirai plus. » Désormais, ce fruit de la vigne, avec vous, c'est terminé, c'est la dernière fois que nous prenons la scène ensemble. Jésus leur annonce que c'est la dernière fois qu'ils prennent cette scène. Et aucun disciple ne réagit vraiment à cela. Continuons brièvement à suivre Jésus dans ces derniers moments. Après cela, Jésus se lève, il chante des cantiques et puis, verset 36, là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémané. Il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse et leur dit, « Alors, mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillez avec moi. » Mon âme est triste à mourir. Là, il leur annonce vraiment que vraiment, il n'en peut plus. Il sent que le poids des péchés du monde arrive sur lui. Il sent que sa condamnation est proche. Il sent que sa mort est proche. Et il invite ses disciples à un moment de prière, un moment de soutien, un moment intime ensemble, un dernier moment avec Jésus, leur avouant qu'il est pris d'angoisse de la mort. Oui, Jésus a eu peur de mourir. Jésus a eu peur de mourir parce qu'il savait, si on peut m'exprimer ainsi, qu'il allait passer un mauvais quart d'heure, et ça a duré plus qu'un quart d'heure, son agonie. Il savait qu'il allait passer des moments terribles, et il avait besoin du soutien de ses disciples afin qu'ils puissent l'aider dans la prière pour affronter ce moment difficile. Et encore là, ce message ne passe pas. Le message ne passe pas, ils sont complètement dans le déni. Et malheureusement, ils s'endorment. Au lieu de veiller comme Jésus leur avait demandé afin de le soutenir dans ces moments terribles, non, ils s'endorment. Et ensuite, après, frères et sœurs, tout va très vite. Les ennemis de Jésus arrivent en force. Il y aura son arrestation. Et là encore, Pierre, se voulant courageux, lui qui a dit qu'il allait protéger Jésus, qu'il allait mourir avec lui s'il le fallait, eh bien, il prend son épée et coupe l'oreille d'un homme. Pierre n'a toujours rien compris. Le message est passé au-dessus de sa tête. Et après, tout s'enchaîne. Il y a un simulacre de procès. Les disciples sont complètement abasourdis par ce qui leur est arrivé. Ils s'enfuient, ne sachant pas trop bien ce qui allait arriver. Sauf Pierre, qui suit de loin Jésus et s'installe afin d'observer ce qui se passe. Et malheureusement, encore pour lui, ce pauvre Pierre, sans se rendre compte, il va renier son maître. Il ne comprend plus rien à ce qui leur arrive. Dans cette mascarade de procès, nous entendons la condamnation tomber. Jésus est coupable. Il doit mourir crucifié. Malgré que Pilate, le gouverneur, essaye, mais en vain, de le sauver, comprenant, mais trop tard, que celui-ci est innocent, que celui-ci est la vérité. Car Pilate me dit, qu'est-ce que la vérité ? La vérité était devant lui, la vérité et la vie. Malheureusement, Pilate n'a pas saisi cette opportunité de croire en la vérité. S'ensuit ce long chemin de croix, de souffrance et d'humiliation, d'injures, jusqu'au calvaire pour Jésus, où il sera crucifié entre deux malfaiteurs. Incompréhensible tout cela, lui qui a fait tant de bien. S'ensuit vraiment une longue agonie sur la croix. Ensuite, au verset 50 du chapitre 27, Jésus pousse de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voilà, c'est fini. C'est fini. Jésus est mort. Jésus est mort. Mais c'est terrible. Jésus meurt seul en croix, laissant les amis et les disciples de Jésus dans l'incompréhension la plus totale. Mais comment est-ce possible? Jésus est mort. Mais on ne savait pas que tu allais mourir. On n'avait pas compris, Jésus, le message que tu nous délivrais. Impossible. C'est pas possible. Lui, mourir, si jeune. Tout s'écroule pour les suiveurs de Jésus. Lui qui a donné tant d'amour, de compassion, qui a guéri, qui a tant aimé, qui a pardonné, c'en est fini. Pourquoi ? Verset 57, nous voyons cette suite malheureuse. Le soir venu, arriva un homme riche d'Arimathée, du nom de Joseph, qui lui aussi était un disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un drap de lin pur et le déposa dans un tombeau neuf qui s'était fait creuser dans la roche. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du tombeau. Voilà Jésus mort et enseveli. C'est fini. La belle histoire est terminée. Il n'y a plus rien à espérer. Non, il n'y a plus rien à espérer. Pour des gens qui n'ont rien compris, qui n'ont pas compris qu'il y aurait une suite, que ce qui s'est passé, c'était écrit dans les Écritures. Le dimanche, les femmes viennent au tombeau avec les aromates. Mais oh, surprise! Il n'est plus dans le tombeau. Mais que se passe-t-il? Le message n'est pas passé non plus pour elles, et pourtant, elles suivaient Jésus. Elles étaient attentives, normalement, à son enseignement. Luc 24, chapitre 1er. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin, avec quelques autres, en apportant les aromates qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici que deux hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Et les hommes leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le troisième jour. » Et là, l'électricité arrive, la lumière se fait. Elles se souvèrent alors des paroles de Jésus. Le message de Jésus avait été complètement zappé, oublié. Pendant 3 ans, il leur avait parlé, leur fait comprendre qu'ils devaient être arrêtés, mourir, souffrir, mais ressusciter. Et voilà que la mémoire leur revient. C'est vrai, Jésus avait annoncé sa résurrection. La lumière se fait pour elles. Dans leur joie, elles vont aussitôt l'annoncer aux disciples, qui bien entendu ne la croient pas. Encore des contes de bonnes femmes, n'est-ce pas ? C'est encore des femmes les premières à arriver au tombeau et raconter des carabistouilles comme ça. Jésus n'est plus dans le tombeau. Enfin bon, allez, on va quand même aller le voir. Et pour ça, là, Pierre et Jean veulent en avoir le cœur net. Ils vont au tombeau. Eh oui, il n'y a personne. Malheureusement, ni à Pierre ni à Jean, la mémoire ne leur revient pas non plus. Aucune joie pour eux. Jésus est ressuscité et ils restent là, pantois devant le tombeau, dire « Mais qu'est-ce qui se passe ? Où est-il ? Où est-il disparu ?» Non, ils sont perplexes. Le message n'est pas passé. Et nous voyons que Jésus poursuit son bonhomme de chemin, il est ressuscité, et il va rencontrer quelques amis. Entre autres, 2 personnes qui sont sur le chemin d'Emmaüs, remplies de tristesse. Je ne vous lis pas le texte, mais vous le connaissez, vous pouvez le lire chez vous. La tristesse les a envahis, et Jésus se joint à eux, et il semble ignorer ce qui se passe. Là, il fait l'innocent, comme on dit. Hein. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi êtes-vous triste ? Et les gens lui disent, mais les 2 garçons lui disent, mais tu es le seul ici qui ne sait pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais Jésus de Nazareth, qui a fait tant de bien, on croyait qu'il allait restaurer le pays d'Israël, qu'il allait devenir roi, eh bien, il a été crucifié, il est mort. Et ils ne comprennent pas, maintenant, ça fait déjà 3 jours qu'il est mort. Quelques femmes nous ont étonnés en disant qu'il était ressuscité, qu'il n'était plus dans le tombeau, mais nous, on ne sait pas où il est. Et alors Jésus, de leur faire comprendre tout progressivement, il leur raconte, leur donne une nouvelle lumière à leur esprit, il leur rafraîchit la mémoire, il commence par les textes anciens, en parlant de ce que les prophètes avaient annoncé. Et tout ce qui s'est produit aujourd'hui était annoncé clairement dans les Écritures. Et lui-même leur en avait parlé. Et malgré tout, ces gens-là, leurs yeux ne peuvent pas le voir. Ils ne comprennent pas que le personnage à côté d'eux, c'est Jésus, lui le ressuscité, qui leur apparaît. Mais tout doucement, leur cœur se réchauffe, ils commencent à comprendre ce qui s'est passé. Et alors Jésus veut aller plus loin. Et il leur dit, reste avec nous, car le jour décline, viens, on va manger ensemble. Et quand Jésus rompt le pain, leurs yeux s'ouvrent. Mais oui, c'est lui, c'est Jésus. Et lui, il a disparu de devant eux. Mais ils se lèvent, ils n'ont plus le temps de manger, ils veulent aller annoncer la bonne nouvelle. Jésus est ressuscité. Et ils vont trouver les disciples. Et bien sûr, Jésus se présentera à ses disciples dans cette pièce fermée. La peur et l'incrédulité les envahissent. Et quand ce personnage arrive, qu'on ne sait comment, dans cette maison fermée, ils ont peur, ils croient voir un fantôme, un esprit. Ils ne se rendent pas compte que c'est Jésus. Et Jésus se présente, se révèle à eux, leur montrant les mains, les pieds, qui ont été marqués par les clous, ce côté blessé. Et encore là, ils sont incrédules. Alors Jésus dit, mais donnez-moi à manger. Jésus a un peu d'humour. Donnez-moi à manger, moi j'ai faim. Un esprit, ça n'a pas faim, ça ne mange pas. Alors on lui donne un peu de poisson. C'est Jésus. Extraordinaire. Il leur a fallu du temps pour comprendre ce qui se passe. Et bien sûr, leur joie maintenant est immense. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Sauf pour un, Thomas. Lui, il n'est pas là. Il a tout abandonné. Ça ne sert plus à rien. C'est l'image parfois de nous, chrétiens, qui sommes parfois envahis par la tristesse, se demandant parfois, est-ce qu'il est vraiment ressuscité ? Est-ce que vraiment ça vaut la peine de continuer le combat ? Et Thomas était ainsi. Et il ne peut pas croire. Il ne peut pas croire s'il ne l'a pas vu. Et Jésus est plein de compassion pour cet homme. Et Thomas lui dit, si je ne vois pas la marque des clous, si je ne mets pas la main sur ton côté, moi je ne croirai pas. Et Jésus se laisse toucher. Et bien sûr, il s'écriera « Mon Seigneur et mon Dieu ». Malheureusement, frères et sœurs, encore de nos jours, beaucoup n'ont pas compris le message de la résurrection de Jésus. Jésus est vivant. Jésus est vivant et il est à nos côtés. Ne doutons pas de sa présence, frères et sœurs. Jésus agit encore au milieu de nous parce qu'il est vivant. Dans les Actes, chapitre 17, l'apôtre Paul est à Athènes et il dira ceci. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine. En le ressuscitant. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Paul est à Athènes et il est admiratif de voir toutes ces divinités dans la ville, exposées sous forme de statues, et il voit même un autel dédié à un Dieu inconnu. Et c'est ce Dieu inconnu qu'il annonce. L'apôtre Paul annonce la résurrection de Jésus aux Athéniens. Et là encore, le message n'est pas compris. Il semble impensable à des humains, cette réalité. De nos jours, nous avons à convaincre aussi nos contemporains, nous en tant que chrétiens, que nous avons un Sauveur vivant et ressuscité. Nous n'adorons pas un Dieu mort, nous n'adorons pas un Dieu qui est resté pendu sur une croix. Tous les grands penseurs ou sages sont morts. Bouddha est mort. Vous savez ça. Confucius, il est mort. Gandhi est mort. Mahomet est mort. Mais un seul est mort et ressuscité, c'est Jésus. C'est ce qui fait la force du christianisme. Nous avons un Dieu vivant. C'est ça la force du christianisme. Nous avons quelqu'un qui nous entend, qui nous comprend, qui agit. C'est ça. 1 Jean chapitre 3, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé, mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même un jour. Lui-même est pur. Frères et sœurs, nous verrons Jésus ressuscité. Nous sommes enfants de Dieu maintenant. Et notre espérance, c'est que nous allons rencontrer Jésus. Si Jésus est mort et qu'il n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Si Jésus est mort, le christianisme est mort, le christianisme est une religion comme les autres. Mais le christianisme n'est pas une religion, c'est une relation d'homme et de femme avec un Dieu vivant. C'est cela, être chrétien, c'est vivre avec un Dieu vivant. Noël, oui, je parle de Noël. Noël, si il n'y aurait pas la Pâque, avec la résurrection de Jésus, ne servirait à rien, ne serait qu'une simple fête. Jésus est mort à la Pâque, mais il est ressuscité. Et c'est ça qui fait notre force. Frères et sœurs, en sa mort, nous avons la vie. Christ ressuscité nous fera l'honneur d'être avec lui dans l'éternité. Aujourd'hui, frères et sœurs, comprenons ce message. Il fallait que Jésus donne sa vie pour nos péchés, qu'il ressuscite afin d'intercéder pour des coupables auprès du Père. Frères et sœurs, comprenons ce message aujourd'hui et recevons la paix de Dieu, recevons la joie de la résurrection. Avez-vous compris ce message? parce que les disciples, jusqu'à un certain moment, n'avaient rien compris. Et malheureusement encore, je le dis, les hommes et les femmes ne peuvent pas croire qu'un homme mort est ressuscité et parti au ciel. Tant pis, mais nous, nous le croyons et nous voulons partager notre espérance et notre joie. Prions. Seigneur notre Dieu, il est vrai que tu as certainement souffert de voir l'incompréhension de tes proches qui ne comprenaient pas le message de la crucifixion et de la résurrection. Mais quand ils ont cru, ils ont apporté et témoigné cette bonne nouvelle au monde et elle s'est répandue. Seigneur Tout-Puissant, merci. Merci parce que tu étais mort, mais tu es ressuscité. Et tu es parti nous préparer une place. Seigneur, merci pour cette espérance. Merci pour ta paix. Merci parce que tu es là auprès du Père et tu intercèdes pour chacun d'entre nous. Et tu intercèdes encore pour le monde qui ne te connaît pas. Seigneur, aide-nous à pouvoir partager la résurrection du Seigneur. Amen.